Bienvenue à toutes et à tous, je suis Isabelle Beautian, romancière et scénariste de bande dessinée, et dans ce podcast, je vous donne des déconseils d'écriture. Le déconseil du jour m'a été notamment suggéré par Sceaux, et je l'en remercie, et c'est « Écrivez sur ce que vous connaissez ». Et celui-là, je pense que je vais le prendre dans le sens inverse de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire je vais d'abord vous expliquer pourquoi c'est de la merde, et ensuite vous dire pourquoi en fait il est donné, et que parce que c'est un très très bon conseil, aussi stupide a-t-il l'air de prime abord, la manière dont il est énoncé. Donc du coup, pourquoi c'est de la merde? Parce qu'à partir du moment, on part du principe que c'est surtout des écrivains de fiction hein, qui me suivent, et à partir du moment où vous écrivez de la fiction, c'est un peu le principe que vous écrivez pas sur ce que vous connaissez et que vous inventez. Enfin, si on écrivait littéralement que sur ce qu'on connaît, il y aurait plus de fantaisie, il y aurait plus de contes, il y aurait plus tous ces univers-là, il y aurait plus de fantastique, il y aurait quasiment plus de science-fiction, de livres historiques, voire même de policiers ou thriller, les romans d'espionnage, n'en parlons pas. En gros, il ne resterait plus que de l'autofiction. Le principe de l'écriture de fiction, c'est de faire preuve d'imagination, de faire preuve d'empathie, de faire des recherches, évidemment, sur les choses que vous ne maîtrisez pas et dont vous avez besoin pour votre ouvrage, et d'inventer. C'est tout le principe, c'est une œuvre d'imagination, c'est pas une autobiographie. C'est pas, enfin, pour prendre un exemple évident, enfin, je sais pas, si vous êtes un jeune prof de banlieue, vous allez pas écrire que sur la vie d'un jeune prof de banlieue. Ça paraît un petit peu évident, même si évidemment vos expériences, votre vécu peuvent servir de base pour des livres de fiction absolument formidables. Et c'est souvent, et je vais y revenir dans la deuxième partie, c'est souvent des choses très intéressantes, ces témoignages, ou ce qu'on appelle dans un autre contexte, ce qu'on va appeler les own voice, que je vais développer un peu sur la fin. Évidemment que ça apporte une vision particulière et souvent particulièrement intéressante, en fait, quand les gens parlent de... Oui, effectivement, de ce qu'ils connaissent. Mais encore une fois, on reste sur la fiction, c'est un travail de création et d'invention. Donc voilà, énoncer comme ça, écrivez sur ce que vous connaissez, non seulement c'est pas vrai, mais en plus ça confirme à l'absurdité. C'est à se demander si ce conseil est pas un peu de la provoque quand il est donné, parce que franchement, c'est honnêtement, j'essaie d'éviter d'être catégorique dans ce podcast, mais c'est honnêtement, je pense, objectivement n'importe quoi. Mais alors pourquoi ce conseil est donné du coup? Parce que en vrai c'est un super bon conseil. Alors pour moi, il y a deux principales raisons. Enfin, il y en a surtout une à mon avis pour laquelle il est généralement donné, mais à mon sens il y en a deux qui sont intéressantes. Il y en a une qui est plus technique, on va dire, et l'autre qui est plus, alors j'allais dire morale, c'est peut-être un bien grand mot, plus éthique, dirons-nous, ou en tout cas qui pose des questions un peu plus subjectives et un peu plus de qu'est-ce que vous voulez faire avec votre œuvre, et voilà. Donc je vais commencer par la première, parce que c'est, à la base, c'est un podcast d'écriture, pas un podcast de politique. En fait, on a souvent tendance à vouloir rajouter dans nos textes des choses qui nous paraissent un peu exotiques, histoire de mettre un peu de paillettes, et c'est souvent le meilleur moyen de se planter, de faire n'importe quoi. Je pense que un exemple vaut mieux qu'un long discours, et pour le coup j'ai un très bon exemple. Un jour, un collègue, qui était lui surtout scénariste, m'a invité avec une autre personne, un autre gars qui était lui romancier et traducteur. Il nous a invité à faire partie d'un jury d'examen. Alors je me souviens plus exactement ce que faisait cette école, mais là en l'occurrence, l'exercice qu'il avait donné à ses étudiants, parce qu'il enseignait notamment la scénarisation, cet exercice c'était de présenter, en gros on va dire, un dossier de production. Ils inventaient un projet, donc une histoire, et essentiellement une histoire, c'était quand même plus noté sur les aspects scénaristiques. Enfin, c'était noté sur deux choses, c'était noté sur la qualité de l'histoire, du scénario, sa faisabilité, sa cohérence, tous ces aspects narratifs, et le fait d'avoir l'air professionnel quand on le vend. Donc voilà, ni moi, ni mes deux collègues, enfin... le prof en l'occurrence avait été producteur, ou l'était encore d'ailleurs, mais nous deux, donc, qu'il était venu chercher, n'étions que auteurs, donc on jugeait quand même surtout les aspects scénaristiques et voilà l'aspect professionnel, dirons-nous, de la manière de nous présenter ces jolis projets. Et donc, le prof avait dit à ses élèves, par pitié, à moins que ce soit absolument nécessaire à votre histoire, et statistiquement ça ne le sera pas, ne faites pas dérouler votre histoire aux États-Unis. Vous croyez que vous connaissez les États-Unis ? Vous ne connaissez pas les États-Unis. Vous avez juste vu beaucoup de séries sur Netflix. Donc, je pense qu'il leur a dit de manière peut-être un petit peu plus sympathique, mais en gros, c'était ça que ça voulait dire. Le prof vous dit, ne faites pas cette erreur-là, sinon vous allez vous planter. Je vous le donne en mille, le jour de l'examen, alors je me souviens plus, ça commence à faire quelques années, mais mettons qu'il y ait eu 10 personnes, enfin 10 groupes de personnes qui nous ont présenté leur projet, je sais qu'il y en avait au moins 4, voire plus, qui avaient fait se dérouler leur histoire aux États-Unis. Et j'imagine que le raisonnement derrière, c'était que, mais voilà, on n'écrit pas que sur ce qu'on connaît, on est des créatifs, on a de l'imagination, on a de l'empathie, et on fait des recherches, voilà. Ok, bon, c'était pas interdit, même s'il l'a dit de manière un peu l'impératif. Ils avaient le droit, c'était juste un très bon conseil. Et donc, plusieurs personnes nous présentent leur histoire. Sur l'ensemble des histoires qui se passaient aux États-Unis, environ 100% n'avaient absolument pas besoin de se passer aux États-Unis. Mais en soi, c'était pas un problème. Je me souviens plus les détails de l'ensemble, mais je me souviens très très bien d'une. C'était un thriller scientifique. Donc déjà, en plus, c'était assez intéressant parce qu'un thriller scientifique, ça veut dire que déjà, vous allez devoir faire pas mal de recherches sur la science. Pour pas faire n'importe quoi, parce que certes vous avez le droit de vulgariser, vous avez le droit de vous amuser un peu avec la réalité, mais faut pas non plus que ça devienne totalement incohérent. Et donc dans ce contexte-là, donc l'histoire se passait aux États-Unis, dont je sais plus, je crois un État du Sud, enfin en tout cas c'était un État assez rural. Je sais même pas pourquoi je vous donne ce détail, ça n'a aucune importance. Et je me souviens plus exactement de l'histoire, mais en gros ça commençait par une espèce un crime, je crois que c'était un meurtre. Et donc on découvrait ce meurtre, et là arrivait le FBI. Et de là se passaient des tas de choses. Super. Et donc ils nous font leur pitch, ils nous font l'article, ils nous expliquent leur histoire, ils nous parlent de leur personnage, ils nous parlent, voilà, ils nous vendent bien leur machin. Et à la fin, mon collègue qui était avec moi leur dit « Alors ok, cool. Par contre, ce que vous avez décrit comme crime, c'est pas un crime fédéral ?» Donc, il n'y a aucun monde où le FBI se pointe. Voilà. Et donc, toute leur histoire était foutue en l'air à la suite de ça. De cette petite erreur, ils n'avaient pas réfléchi au fait que le FBI s'occupait des crimes fédéraux et pas des petits crimes locaux comme ça. Voilà. Donc, projet totalement fichu, totalement invendable, juste pour ça. Pour une histoire qui n'avait absolument pas besoin de se passer aux États-Unis, qui pouvait se passer absolument n'importe où dans le monde, et notamment dans la ville dans laquelle se trouvait cette école, qui était une ville particulièrement télégénique, l'idée que c'était un projet cinématographique, ou pour la télé, en tout cas audiovisuel. Donc ils avaient tout sous la main, ça aurait pu parfaitement se passer dans la ville où ils étaient eux-mêmes, zéro besoin de s'embêter à faire des recherches pour des trucs qui n'ont aucune importance pour l'histoire. Non, ils avaient voulu faire ça aux États-Unis parce que j'imagine que c'était plus cool. Et voilà pourquoi on vous conseille d'écrire sur ce que vous connaissez. Voilà, voilà. Et donc, effectivement, hein, j'y reviens, mais le conseil tel qu'il est dit, comme à peu près quasiment tous les conseils d'écriture, bien péremptoires, bien impératifs et tout, c'est idiot. Mais voilà la réalité derrière. C'est pas écrivez globalement sur ce que vous connaissez. Évidemment que si vous voulez écrire sur quelque chose qui se passe aux États-Unis, bah vous allez faire figurer votre histoire aux États-Unis. C'est la base. Et donc vous allez faire des recherches Et je vous conseille hautement de ne pas vous contenter de faire des recherches bibliographiques ou avec des reportages, quelle que soit leur forme, mais aussi de parler aux gens et de vous faire relire par pitié par des gens qui habitent ou ont habité aux États-Unis, voire par des natifs, parce que vous avez l'impression, enfin c'est typiquement avec des pays, enfin avec les États-Unis, on est tellement familiarisé avec la culture américaine à travers la pop culture, c'est ce qu'on appelle le soft power, hein, c'est quelque chose qui a quand même imprégné notre culture, et on est vraiment biaisé, on pense vraiment qu'on connaît ce pays, parce qu'effectivement c'est une réalité qu'on le connaît de manière démesurée par rapport à d'autres pays dans lesquels on n'a jamais mis les pieds, ou qu'on a juste visité comme ça. Mais je peux vous dire, moi à ma petite échelle, j'ai passé un moment dans ma vie 2 mois aux États-Unis, et qui m'ont absolument pas permis de pouvoir dire maintenant que je peux écrire sur les États-Unis. Déjà, encore une fois, les États-Unis, c'est grand, hein. Donc moi, j'étais vers Washington. Donc à la limite, j'ai une petite expérience de ce qui se passe autour de Washington, mais ça s'arrête là. Mais même ça, je pourrais pas. Au bout de 2 mois, je pourrais pas juste écrire sur les États-Unis comme ça. C'est évident. Même si j'ai vu beaucoup de films américains, et aussi, quand je suis allée aux États-Unis, rien que pendant ces 2 mois. J'ai découvert des choses, des petits détails de culture, des petits détails que vous ne pouvez appréhender que si vous y êtes allé. Et c'est sur ces petits détails que votre crédibilité en tant qu'écrivain va se jouer. Et c'est pour ça qu'on vous dit, faites-vous relire par des gens qui connaissent, si vous n'avez pas le choix que d'écrire sur des choses qui ne vous sont pas familières. C'est pas juste des recherches bibliographiques qui vont vous faire appréhender la réalité de ce que c'est de vivre à un endroit, de vivre telle expérience. Il faut que vous consultiez des gens. Et c'est un peu là que je voulais en venir, en fait, sur l'autre raison, selon moi, de ce conseil, qui est, on va dire, quelque chose d'un peu plus subjectif, mais qui est super important, à mon sens, à aborder. C'est la question d'où on parle. Et la question, notamment, de ce qu'on appelle les récits own voice. Alors, pour ceux qui connaissent, qui ne connaîtraient pas le sujet, en fait, ce qu'on appelle les récits own voice, c'est des récits qui sont écrits par des personnes concernées par les sujets abordés. Donc, ça peut être des témoignages, hein, évidemment, c'est dans sa forme la plus brute, ça va être ça, mais c'est pas que ça. Ça va être, par exemple, en science-fiction, pour écrire sur ce qu'on appelle l'afrofuturisme, des personnes qui sont de culture, de différents, d'un ou l'autre pays d'Afrique. Ça va être pour écrire sur des sujets féministes, ne serait-ce que être une femme. C'est écrire un terme qui est souvent employé dans le cadre de sujets qui touchent des personnes discriminées. Et donc, je vais l'annoncer tout de suite, n'importe qui peut écrire sur n'importe quoi. Évidemment que vous pouvez être un homme et écrire sur des sujets féministes. Même pas forcément sur le féminisme, mais sur des sujets qui touchent au féminisme. Par exemple, des grandes figures féminines de l'histoire. Et pourquoi elles sont moins connues que ou souvent un peu effacées, ou moins connues que leurs homologues masculins. Donc, vouloir redonner de la voix à ces grandes figures de l'histoire. Évidemment que vous pouvez le faire, si vous êtes un homme. Évidemment qu'en tant que blanc, vous pouvez mettre en scène des personnes noires. Évidemment que vous pouvez même parler de racisme. Et etc., etc., hein, d'autres sujets, sur d'autres personnes qui subissent des discriminations. Mais, déjà, oui, vous êtes écrivain, vous avez beaucoup d'imagination, vous avez beaucoup d'empathie, et vous êtes peut-être même très, 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 très intelligent. Toute cette imagination, toute cette empathie et toute cette intelligence ne remplacera jamais l'expérience. Ça ne veut pas dire que vous allez écrire n'importe quoi. Ça veut dire que vous écrirez toujours du point de vue de quelqu'un qui n'a pas subi ces choses. Et ça peut être intéressant aussi. Moi, en tant que femme, par exemple, je trouve c'est intéressant qu'il y ait des hommes qui parlent du féminisme de leur point de vue d'homme et qui en parlent justement à d'autres hommes pour faire avancer les féministes. Parce que je sais que beaucoup d'hommes seront plus sensibles, tristement, aux arguments d'autres hommes. Donc ça, je sais qu'il y a débat là-dessus. Pour moi, c'est important que les personnes dominantes, comme on dit, s'approprient aussi ces sujets-là. Mais le problème, c'est que souvent, les personnes, donc je vais toujours parler de mon cas du sexisme, parce que donc je suis une femme blanche, donc je vais parler de ce qui me concerne en priorité. Je ne peux pas m'empêcher de constater, et je ne suis pas la seule à le faire, que si quand une femme parle d'un sujet féministe, bon, bah, ça va être intéressant, mais ça va surtout intéresser les gonzesses, figurez-vous. Ça va être un peu présenté comme des bouquins de gonzesses, qui peuvent être très intéressants, très intelligents, très informatifs, tout ce qu'on veut. Mais il y a une partie du public masculin qui ira pas forcément vers ces livres ou qui aura un a priori, mais enfin je veux dire totalement inconscient, hein. Il y a pas de jugement de valeur sur ces personnes-là. C'est pas grave en soi, surtout. Enfin, on parle de fiction, c'est pas grave en soi de vouloir aller vers les sujets qui nous touchent, et les sujets qui nous touchent vont l'être souvent parce que on partage un certain vécu, une certaine culture avec l'auteur. Il y a pas de souci avec ça. Mais là où je voulais en venir, c'est que bon. Les livres féministes, dirons-nous, ou sur des grandes figures féministes écrits par des femmes, ne vont pas avoir le même traitement que ceux écrits par des hommes. Ceux écrits par des hommes vont souvent être plus mis en avant. Je vois même honnêtement certains collègues qui font un peu une carrière autour de ça, et donc... Voilà, typiquement, voilà, vous êtes un homme, vous voulez écrire sur une grande femme de l'histoire, mais allez-y, faites-vous plaisir. Mais au bout d'un moment, quand ça devient votre seul sujet, ça commence à ressembler beaucoup à une stratégie marketing. On va pas se mentir, en tant qu'homme, si vous parlez de grandes figures féminines ou si vous parlez de féministes, vous êtes un héros. Vous parlez de ces choses-là, alors que c'est pas votre intérêt d'en parler. Vous bénéficiez d'un système biaisé à l'encontre des femmes, d'un système sexiste. Et donc, vous allez être vachement mis en avant aussi parce que, bah, voilà, forcément, vous êtes objectif. C'est pas un truc que vous vivez. Donc voilà, vous êtes rationnel quand vous parlez de ça. Et sachant quand même que d'une manière générale, les auteurs vont être mis plus en avant que les autrices. Et alors, les auteurs blancs, n'en parlons pas. Mais il paraît assez intéressant de se dire: d'où est-ce que je parle et quels sont les effets de ce que je fais avec mon travail? Encore une fois, moi, enfin, je veux dire, je vais pas vous mentir, j'ai déjà eu des héros ou des héroïnes qui étaient noires, par exemple, et il s'est trouvé que dans le livre, bah, ils ont été confrontés au racisme à un moment, et donc, dans ce cas-là, bah, je suis allée voir alors ce qu'on appelle... sensitivity reader, moi je suis pas fanat du terme, je sais que c'est un terme qui fait un gros débat. Moi, bon, je suis allée voir une consultante, tout simplement, qui à la fois était cultivée, enfin assez militante sur ces questions-là, et qui avait subi elle-même le racisme. Et donc je lui ai dit: bon, écoute meuf, est-ce que ça t'embête de me relire ces trucs-là pour voir si je suis pas super maladroite ou j'ai pas dit des trucs qui pouvaient ou qui sont juste incohérents ou qui pouvaient être juste un peu, enfin qui pouvaient avoir une interprétation raciste alors que moi je voulais tout le contraire. Et elle m'a relu ça tranquillement. Mais je vous avoue que ça me serait jamais venu à l'idée d'écrire un livre sur le racisme. Peut-être, je dis ça, faut jamais dire jamais, hein, peut-être qu'à un moment j'aurai une super idée, mais pour moi ça a toujours été juste évident que, enfin, c'est pas un truc que j'ai vécu, c'est pas un truc que j'ai étudié académiquement. Ça va être quoi mon point de vue pour parler du racisme? Ça va être dire: ouais, le racisme c'est mal, touche pas à mon pote, pour les vieux comme moi qui ont la ref. Je pense pas être hyper pertinente là-dedans. Est-ce que ça veut dire que je pourrais pas le faire? Non, probablement. Est-ce que ça veut dire que j'en ai pas le droit? Certainement pas. Mais c'est quand même... Enfin, si je le faisais, je me dirais, ouais, encore une fois, ça fait un peu... je veux me poser en sauveuse. Et honnêtement, quand on voit des récits sur des blancs qui écrivent sur le racisme, même des récits très sincères, on a souvent des tropes, enfin, ou des clichés qui sont un peu, enfin, typiquement, ça va être le héros blanc qui va sauver l'esclave noir, voilà, en héroïquement, en rejetant ses privilèges, en étant ostracisé par sa famille. Et je dis pas que ces trucs-là sont jamais arrivés, mais c'est tellement, tellement anecdotique, et c'est des récits qui prennent tellement, tellement de place dans la librairie, justement parce que c'est des points de vue de blancs, et que les blancs ont plus la parole. C'est pour ça que, voilà, je pense, c'est plus vraiment un conseil d'écriture, je pense que c'est plus une posture éthique, et il n'y a pas de réponse définitive à ça, encore une fois, on a le droit d'écrire sur ce qu'on veut, mais je pense qu'il faut être conscient du contexte dans lequel on écrit et à qui on s'adresse, et accessoirement, au-delà de cette posture purement éthique ou morale, comme vous voulez, les personnes les récits own voice vont vous parler de vraiment ce que c'est que les cultures... que les cultures africaines, ou que... Enfin, africaines, je sais pas pourquoi je focalise sur les cultures africaines, mais ou asiatiques, ou ce que vous voulez, ou sur ce que ça fait d'être une personne gay dans un monde homophobe. Et c'est, honnêtement, ces récits-là vont vous... C'est vraiment ces récits-là qui vont, en général, vous faire le plus réfléchir, au-delà du « soyons tolérants, parce qu'être intolérant, c'est pas cool ». Il y a souvent... Les auteurs des récits own voice ont souvent, honnêtement, beaucoup plus de choses à dire et vont avoir beaucoup plus d'impact pour peu qu'on leur tende le micro. Donc voilà, c'était une question, voilà, encore une fois, peut-être un peu plus subjective, un peu plus morale, mais qui me paraît intéressante, qui me paraît bonne de se poser. Qu'est-ce que vous voulez raconter? Pourquoi vous voulez raconter? D'où est-ce que vous voulez raconter? À qui vous vous adressez? Dans quel contexte vous écrivez? Dans quel contexte vous publiez? Nos œuvres ne sont pas totalement décontextualisées et c'est bon de se poser des questions d'une manière générale et particulièrement sur ce sujet-là. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc en résumé, écrivez bien sur ce que vous voulez, faites des recherches, faites preuve d'empathie, faites des recherches recherches auprès d'universitaires, des recherches théoriques, des recherches bibliographiques auprès d'experts, faites aussi des recherches ou faites-vous relire par des personnes concernées, et là je parle pas seulement sur des questions de discrimination ou quoi, enfin je veux dire si vous écrivez sur des pompiers, par pitié faites-vous relire par des pompiers quoi, si vous allez écrire des bêtises sans ça. Oh, je voulais conclure, mais en fait sur des détails. Au-delà des grosses erreurs, des fois il y a des petites erreurs qui sont juste ridicules. Moi je peux donner, voilà, il y a deux exemples. Il y a typiquement les auteurs masculins qui écrivent sur des femmes. J'avais vu l'exemple d'un auteur, mais d'un très bon auteur en plus, qui avait mis en scène son héroïne qui arrivait face à un miroir et qui passait mes 5 minutes à regarder ses nichons dont elle était si fière et tout ça, mais que maintenant qu'elle avait un coup de vieux, ses nichons ils avaient l'air un peu tristes et tout. Honnêtement, c'est ridicule. Et ce gars-là, et c'était un super super auteur qui avait fait ça. Vous voulez pas être ridicule quand vous êtes auteur. Et faites-vous relire par des gens, par pitié. Les nanas, la plupart des nanas, l'écrasante majorité des nanas, passent pas 5 minutes à contempler leurs nichons le matin, même quand elles ont un coup de blues et même quand elles ont des très beaux nichons. Moi, dans mon cas, où j'ai fait appel à une consultante la fois où j'ai eu une héroïne noire, au final, j'avais pas tellement fait de conneries qui pouvaient avoir l'air raciste, donc de ce coup-là, pas de problème. Par contre, elle m'a signalé un truc tout bête, c'est que mon héroïne, à un moment, donc il y a toute une histoire autour des cheveux de mon héroïne, mais à un moment, il pleut, et en fait, elle aurait dû friser, ses cheveux auraient dû réagir à la pluie. Et le fait que j'ai pas juste pensé à le mentionner dans ce contexte-là, ça faisait trop la blanche qui écrivait sur des noirs et qui savait pas ce que c'était. Donc, rien que pour des petits trucs comme ça, honnêtement, faites-vous relire. C'est dommage de sortir votre lecteur de votre histoire sur des trucs aussi bêtes et aussi peu importants. Et accessoirement, c'est jamais agréable de passer pour une andouille. Donc voilà, encore une fois, voilà, écrivez sur ce que vous voulez, faites preuve d'empathie, faites preuve d'intelligence, faites des recherches, allez voir des consultants. Mais posez-vous la question d'où vous écrivez et d'un point de vue plus technique, n'allez pas vous rajouter des recherches compliquées pour des détails qui n'ont aucune importance sur votre histoire, juste pour donner un côté un peu exotique à votre histoire.
Merci d'avoir écouté ce déconseil d'écriture. N'hésitez pas à partager les mauvais bons conseils qu'on vous a donnés en commentaire ou via la messagerie de mon site www.isabellebautian.com. Pensez à vous abonner et à liker, et si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire à partir de 1 euro sur ma page Ko-fi, ko-fi.com/isabautian. À très bientôt.